Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, comme tous les dimanches de 18h10 à 19h30, en direct. Il est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, depuis février dernier. Roch-Olivier Maistre est mon invité ce soir. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Frédéric Martel.
Vous interrogez à juste titre le pluralisme et la déontologie des médias. Eh bien, ce soir, ce sont les médias qui vous interrogent. Et ce sera sous la forme d'une sorte de club de la presse. Vous serez questionné ce soir par Sandrine Cassini du journal Le Monde. Bonsoir, Sandrine.
Bonsoir, Frédéric.
Emmanuel Paquette de L'Express. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir, Frédéric.
Et Zoé Sfès de France Culture.
Bonsoir, Frédéric.
Bientôt une année que vous êtes, Roch-Olivier Maistre, à la présidence, à la tête du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, comment est-ce que vous définiriez le job si c'était une offre d'emploi?
Si c'était une petite annonce, bon. D'abord, je rappellerai ce qu'est l'institution. C'est une autorité publique indépendante qui régule le paysage audiovisuel français. C'est elle qui accorde les autorisations d'émettre aux éditeurs de programmes de télévision et de radio. Et c'est elle qui veille au respect de leurs obligations. Donc, si j'avais dû faire une petite annonce, j'aurais probablement mis cherche régulateur dans un secteur en mutation. Sur les qualités requises, j'aurais probablement mis expérience, sens du dialogue et impartialité. Et puis j'aurais invité à adresser les candidatures au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, puisque comme vous le savez, c'est le président de la République qui nomme après validation par les commissions parlementaires.
Avec vous, on évoquera ce soir la nouvelle loi audiovisuelle qui arrive sous peu en Conseil des ministres et qui devrait être débattue à partir de janvier 2020 au Parlement. Avec vous également, on reviendra sur l'actualité des médias, des industries culturelles et bien sûr du numérique, puisque vous aurez en partie au moins à réguler ce secteur. 19h30, Aurélie Jean nous rejoindra. Elle publie De l'autre côté de la machine, un livre que vous avez lu, Zoé Sfès.
Mais oui, et un livre important, Aurélie Jean, qui est docteur en sciences, entrepreneur formé en France et aux États-Unis, qui travaille encore dans les deux pays et qui véritablement fait un ouvrage pédagogique important, je trouve, sur les algorithmes, sur concrètement ce que c'est, sur leurs biais, sur la nécessité surtout pour tout le monde de les comprendre et d'investir un petit peu ces champs-là.
Bonsoir Aurélie Jean, vous êtes passée de l'autre côté de la machine.
Oui, exactement. Bonsoir Frédéric Martel, merci pour l'invitation. Exactement, je suis passée de l'autre côté de la machine depuis presque 20 ans.
Et vous allez nous raconter ce que vous avez
exactement.
Vu.
Exactement.
Si on ajoute Christian Boltanski à Beaubourg, le nouvel album de Riles et le nouveau film À Problème de Romain Polanski, voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir, émission réalisée par Lionel Quentin avec en régie Jean-Frédéric. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata, car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti. Pour commencer cette émission, deux clins d'œil culturels sur la vie et l'œuvre. Le premier est une exposition, celle de l'artiste contemporain Christian Boltanski au Centre Pompidou. Rétrospective impressionnante que l'on doit à Bernard Blisten, où l'on retrouve les œuvres les plus fascinantes, perturbantes aussi, de Christian Boltanski. Toujours ses ampoules nues au bout de leur fil, ses boîtes de biscuits effrayantes qui témoignent de la petite vie, comme ça, mise en boîte de Suisse mort, anonymisé. Il n'y a d'ailleurs jamais de star dans l'œuvre de Boltanski, seulement lui et des anonymes. Les clochettes aussi qui s'agitent au vent dans le désert chilien et le petit tiré entre la date de naissance et de mort de tant d'individus. C'est quoi une vie? Sinon, se tirer. Dans toute sa brièveté de petit tiré et son immensité de long tiré. Il y a du Modiano chez Boltanski, la mémoire et l'oubli, les mythologies personnelles et collectives, la vie et l'œuvre, ou même la vie dans l'œuvre, la vie œuvre. Christian Boltanski a-t-il fait son temps? Faire son temps, c'est le nom de cette exposition impressionnante. Des cœurs qui battent encore, des baleines qui hurlent en Patagonie et l'homme de Tasmanie qui a acheté la vie de Boltanski. S'il y a une exposition d'art contemporain à voir à Paris cette saison, c'est bien celle-ci, Faire son temps de Christian Boltanski jusqu'au 16 mars au Centre Pompidou. Et vous pouvez d'ailleurs écouter en podcast son entretien dans les matins de France Culture avec Guillaume Erner. C'était ce jeudi et c'était superbe. Et puis, second clin d'œil culturel, ce soir sur la vie et l'œuvre, un film dont on parle moins que de la nouvelle accusation de viol dont son réalisateur est désormais soupçonné, la cinquième quand même, J'accuse de Roman Polanski. Et je dois dire que ce film m'a ému, bouleversé même. C'est l'histoire de France, dans ce qu'elle a de plus grand, le souci de la vérité du colonel Picard notamment, et de plus terrible, le mensonge d'État et l'armée qui privilégie l'institution sur la vérité. C'est cela la France, sa grandeur et sa faiblesse, Dreyfus, Zola et Picard contre la bassesse des hommes. C'est du cinéma, mais c'est aussi la vie et l'œuvre, et c'est cela aussi la France. Pouvoir aimer un film formidable au demeurant et dénoncer en même temps, dénoncer son réalisateur quand son comportement fut possiblement criminel. On peut aimer un film et ajouter à la fin de notre critique seulement ces quelques mots terribles. Par ailleurs, Roman Polanski fait l'objet d'une nouvelle accusation de viol. Roch-Olivier Maistre, vous êtes le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous avez vu, vous aussi, ce film?
Vous avez tout dit, Frédéric Martel, et très, très bien dit. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est la figure du colonel Picard. C'est de prendre l'affaire à travers le prisme du colonel Picard.
Jean Dujardin, remarquable.
Qui est un officier supérieur promis à une très brillante carrière au moment où il est nommé à la tête des services de renseignement français. Il est typique du corps militaire de l'époque. Le souvenir de la défaite de 70, l'obsession de l'Alsace-Lorraine, l'obsession de la question allemande. Il est antisémite. Et pourtant, la conscience prend le dessus et permet à la justice de se frayer un chemin. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que du coup, on n'a pas une approche manichéenne du sujet. C'est un éclairage nouveau. J'ai trouvé le film d'un très grand classicisme dans sa réalisation. Et c'est un parti pris pour moi. Bien évidemment, pour des raisons que vous savez, j'ai trouvé les comédiens français exceptionnels. On a la chance d'avoir une troupe qui est, depuis quelques années, à un niveau absolument remarquable. Ils tiennent tous des rôles de façon exemplaire. Et puis ce sujet, moi c'est un sujet qui m'a beaucoup hanté pendant de nombreuses années et qui est très présent en moi pour différentes raisons. Ce sujet, je trouve, fait écho à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et je trouve que face aux montées des intolérances, se souvenir de ce qu'a été cette affaire pour notre pays, c'est un moment de bascule dans l'histoire de la République, il y a un avant, il y a un après. Se souvenir de cela, se souvenir de ce à quoi l'intolérance peut conduire, c'est très important. La mémoire des hommes est très courte.
Roch-Olivier Maistre, notre invité ce soir, il est 18h18 sur France Culture. L'actualité des industries culturelles et du numérique pour commencer cette émission, première séquence, premier segment avec donc notre invité et nos chroniqueurs, ce soir Sandrine Cassini du journal Le Monde, Emmanuel Paquette de L'Express et Zoé Sfès de France Culture. J'aimerais commencer cet entretien par une petite anecdote, Roch-Olivier Maistre. Cette semaine, lorsque nous avons préparé ensemble cette émission, j'ai pris un taxi pour venir au CSA, ce qui m'arrive rarement. J'étais très en retard ce jour-là, il faut bien le dire. Et en donnant l'adresse au chauffeur de taxi, je lui ai dit que je vais au CSA. Il m'a demandé c'est quoi le CSA. Alors j'ai tenté de lui expliquer, c'est pas très simple. Et tout à coup, il m'a dit « Ah oui !» C'est le mec qui a voulu condamner Cyril Hanouna. Et c'est authentique, c'est ce qui s'est passé. Alors ma première question, est-ce que dans votre vie, quand vous étiez petit comme ça, votre rêve, c'était un jour de devenir célèbre comme l'homme qui a condamné Cyril Hanouna?
J'ai l'impression que si je vous répondais oui, vous seriez surpris. Donc je vais vous répondre...
D'abord, c'est pas vous qui l'avez condamné.
Voilà, c'est pas moi qui l'ai condamné d'abord, mais ça, ce serait une pirouette. Non, je vais vous répondre...
Au contraire, vous allez lui donner de l'argent.
Mes rêves étaient probablement ailleurs et comme dit si bien la chanson, tant qu'à faire, j'aurais préféré être un artiste.
Sandrine Cassini?
Oui, en fait, vous l'avez condamné, mais en même temps, vous avez été désavoué cette semaine par le Conseil d'État qui vous a condamné à verser 1,1 million d'euros
Merci de le rappeler, c'est cruel pour un magistrat de la Cour
des comptes. C'est cruel, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, on va payer, j'imagine, c'est normal. Est-ce à dire que condamner pour des propos, pour des émissions qui dérapent, c'est compliqué aujourd'hui pour le CSA?
Alors, petit rappel des faits d'abord, vous l'avez dit, le Conseil supérieur a sanctionné à 3 reprises la chaîne C8 au titre de l'émission de Cyril Hanouna. La chaîne s'est portée devant le Conseil d'État contre ces décisions. Le Conseil en a validé 2, on a annulé une. Et du coup, l'annulation entraînait de façon quasi automatique la possibilité pour la chaîne d'engager un contentieux indemnitaire, ce qu'elle a fait. Et le Conseil d'État lui a donné en partie raison. Elle demandait beaucoup plus d'argent, mais prononçait une décision à hauteur de 1 100 000. Et donc, voilà, c'est une décision qui est définitive, qui s'impose à nous. Je suis moi-même magistrat, donc je ne vais pas commencer à discuter des décisions de justice. Elle s'impose à nous et nous allons devoir régler cette dépense. Oui, il y a une part de risque dans l'action publique, toujours, quelles que soient les précautions qu'on prend. Il y a aussi une part de risque dans l'action privée, d'ailleurs. Et quelles que soient les sécurités qu'on prenne, il peut toujours y avoir des évolutions de la jurisprudence.
Mais est-ce qu'on sent au Conseil d'État une sorte de... C'était déjà arrivé avec N23, la chaîne dite de la diversité. Est-ce que le Conseil d'État n'est pas un peu en guerre contre le CSA, manière de dire qu'il n'aime pas tellement, finalement, ces autorités administratives indépendantes?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Il n'y a pas tant d'annulations que ça, mais c'est vrai qu'il est très vigilant. Pourquoi? Parce qu'on est sur le terrain des libertés publiques. Mmh. Donc, le juge administratif, en l'occurrence, se fait gardien des libertés publiques. On aura l'occasion, je pense, de parler d'Éric Zemmour. On a des décisions très récentes du Conseil d'État qui sont intéressantes à regarder de ce point de vue-là.
Mais il y a un truc étrange quand même, c'est que vous devez aujourd'hui effectivement débourser cet argent. Et pourtant, sur les 2 autres sanctions, où pour le coup, vous avez reçu de l'argent. L'argent a été déboursé par la chaîne, elle a été versée au CNC.
Elle est versée au
Comment
CNC.
Comment c'est possible,
c'est
justement
paradoxe.
Vous n'avez pas de trésorerie.
C'est la loi qui prévoit les choses comme ça. Effectivement, quand on prononce des amendes, le produit de cette amende va au bénéfice du CNC, donc va alimenter le soutien du financement de la création. À l'inverse, quand on est condamné, ce qui est le cas, puisqu'on a le statut d'autorité publique indépendante, c'est sur notre budget qu'il faut payer cette dépense.
Vous n'avez pas le droit à l'erreur, du coup.
Ça incite à la prudence et à la vigilance.
Emmanuel Paquette.
Alors justement, Michel Boyon, votre prédécesseur au CSA, avant Olivier Schramek, a tweeté que l'indemnité qui sera prélevée sur votre budget, et plus sur celui de l'État, est due, en fait, est une conséquence prévisible de l'attribution de la personnalité morale au CSA, une réforme qui n'était vraiment pas nécessaire. Alors, est-ce que vous partagez le point de vue de Michel Boyon contre celui d'Olivier Schramek?
Écoutez, bon, la réforme du statut de l'autorité est intervenue il y a 3 ans maintenant, elle est acquise, on va pas revenir dessus. La conséquence budgétaire, c'est vrai que c'est l'institution qui doit supporter en direct la dépense. Il n'empêche que notre budget est essentiellement composé de la masse salariale des agents du CSA, des frais de fonctionnement de l'institution et notamment des frais immobiliers pour notre occupation de la tour Mirabeau. Et donc, il faudra très vraisemblablement qu'on demande un abondement. Dans les budgets de l'État, il y a toujours des provisions pour risques contentieux. Et donc, nous solliciterons un concours pour faire face à cette dépense.
Toujours dans l'actualité de la semaine, du moment, on va revenir sur Alain Finkielkraut, mais juste avant, Éric Zemmour, il y a beaucoup de sujets ce soir. Sandrine Cassini.
Oui, justement, vous parlez de cette prudence à laquelle vous deviez vous tenir. Sur Éric Zemmour, depuis qu'il est sur C8, on attendait beaucoup du CSA qui s'exprime par rapport aux différentes sorties, différents dérapages. Vous ne l'avez pas fait. On attend. Pourquoi?
Tout simplement parce que la loi nous interdit d'évoquer les affaires sur lesquelles nous sommes en instruction. Donc on est saisi de plusieurs interventions d'Éric Zemmour sur
CNews. Mais quelle est votre marge de manœuvre là-dessus?
Et donc nous allons statuer très prochainement dessus. Et une fois qu'on aura statué, on pourra s'exprimer. On a statué il y a peu de temps, il y a 15 jours, sur la diffusion en direct du discours d'Éric Zemmour à la convention de la droite sur LCI, sur lesquelles on a pris une décision qui est quand même très forte, puisque pour la première fois, le CSA a saisi lui-même le procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale, en considérant que...
Oui, mais l'enquête était déjà ouverte.
Certes, mais le fait que le CSA transmette lui-même des pièces à l'appui de la démarche du procureur, c'est pas une petite approche. Et on voulait à cette occasion rappeler que l'auteur des propos, peut lui aussi engager sa responsabilité au titre de la loi de 1881.
Mais au-delà du cas Zemmour, sans vous demander d'en parler à ce stade de la procédure, plus globalement sur la télé du clash, disons, le fait des émissions comme Face à l'info, d'ailleurs de Christine Kelly, ancienne membre du CSA, le clash comme ligne éditoriale, une sorte de mini Fox News à la française, pour reprendre le titre d'un article justement de Sandrine Cassini, dans Le Monde, comment vous sentez cette évolution?
Je sens qu'on a un paysage des chaînes d'information continue très singulier, avec trois chaînes privées qui sont en concurrence frontale.
Là, vous parlez pour les chaînes d'actu, BFM,
plus une chaîne,
LCI, CNews.
Plus une chaîne de service public, voire deux si on compte France 24. Donc c'est un paysage très singulier d'avoir cette concurrence frontale. Sur les chaînes privées qui agissent sur le même marché publicitaire, comme vous le savez, il n'y a qu'une seule chaîne qui gagne de l'argent, qui est BFM.
2%
les deux autres perdent de l'argent et sont donc en concurrence et dans une course frénétique. J'ai regardé par curiosité la semaine dernière, la plupart des signalements qui nous sont faits de clash, pour reprendre votre expression, concernent LCI et CNews. Donc c'est bien le signe que ces deux chaînes qui sont en concurrence frontale et qui perdent de l'argent sont dans une stratégie de rechercher
mais
le show,
mais est-ce
le
que vous n'êtes pas un peu aussi responsable, puisque, et la loi française, puisque aux États-Unis il y a Fox News, mais Fox News au fond c'est que des républicains, il y a aussi des chaînes que démocrates. Là en France, le CSA veille à ce qu'il y ait du pluralisme, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une chaîne qui ne serait que de droite ou que de gauche, mais d'une certaine manière, en imposant cet équilibre et ce pluralisme, on ne crée pas Fox News, mais le clash finalement, la droite et la gauche, enfin en tout cas les plus, alors BHL versus Zemmour, mais aussi Caroline Dehaas versus Finkielkraut, on en parlera tout à l'heure. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu enfanté des monstres?
Non, j'ai pas le sentiment que ce soit la responsabilité du CSA en la matière. Ce que je crois, une fois encore, c'est que cette situation de concurrence frontale qui crée cette situation. Vous avez raison de souligner que le modèle français a une singularité, c'est que dès le départ, dès la loi de 86, le pluralisme est érigé en principe. C'est un principe de valeur constitutionnelle. Et donc toutes ces chaînes doivent respecter ce pluralisme. Et pour CNews, c'est d'ailleurs un sujet qui sera intéressant, on va avoir l'occasion de les auditionner très prochainement, de s'assurer de la façon dont, nonobstant l'émission à laquelle vous venez de faire allusion, elles vont respecter le principe du pluralisme. Si ce n'est pas le cas, le CSA sera
bien. Vous avez déjà rendu des décisions montrant qu'ils respectaient le pluralisme, et d'ailleurs à l'antenne, il y a des personnalités de tous bords, donc on peut dire que factuellement, ils le respectent, mais est-ce que justement, ce n'est pas une façon de le contourner? Et est-ce que le CSA a un rôle à jouer? Est-ce que c'est souhaitable d'avoir cette télé du clash qui se développe avec des propos un peu partout?
Écoutez, le cadre pour nous, il est assez simple. On a un principe dans ce pays qui est la liberté d'expression. C'est un principe vraiment fondamental.
Article 1er de la loi de 86.
C'est l'article 1er de la loi de 86 qui est d'abord.
Vous avez contribué notamment
de liberté
à écrire, puisque vous étiez jeune conseiller, je crois, de François Léotard, ministre de la Culture à l'époque.
C'est un principe qui a une valeur constitutionnelle, qui renvoie à l'article 11 de la Déclaration de 1789, qui est magnifique, qui dit que cette liberté, c'est le bien le plus précieux de l'homme. C'est une formule vraiment très, très belle. Elle est très protégée par le juge, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit la Cour de cassation, ou que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais vous en citer un exemple à propos de Zemmour, qui est quand même assez intéressant. On a fait une mise en demeure sur RTL il y a 2 ans, qui s'est pourvu devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a annulé notre mise en demeure, précisément en disant, certes, dans vos conventions, vous soulignez que la cohésion sociale doit être préservée, mais il y a un principe supérieur, qui est la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression peut même autoriser à porter des discours contraires aux valeurs de la République. C'est quand même un considérant qui est très fort. Et donc nous, on est obligé bien évidemment à la fois de respecter la loi et la décision du juge. En regard de cette liberté, il y a d'autres principes qui sont posés par le législateur. Et il faut toujours trouver la juste ligne de crête dans les décisions qu'on est amené à prendre.
Emmanuel Paquette.
Justement, dans l'affaire Finkielkraut, qui avait dit donc sur LCI, je dis aux hommes de violer les femmes. Depuis, il y a eu beaucoup de réactions.
Il n'a pas dit exactement ça, c'était un peu plus...
C'est
un long...
C'était ironique, comme lui-même le dit aujourd'hui, puisqu'il a dit une réaction par l'absurde à des propos qui lui étaient tenus. Et aujourd'hui, on voit que le PS a saisi le CSA, que donc la France Insoumise...
Il n'y a pas que lui.
Il y a aussi une pétition à France Culture, etc.
Voilà, une pétition pour retirer...
Olivier Mestre.
Rien que dans la journée de vendredi, on a dû enregistrer de l'ordre de 3 800 saisines. C'est plus que pour
Éric
Zemmour sur Bugeaud.
Et donc là, du coup, entre liberté d'expression et... parce que là, en l'occurrence, Alain Finkielkraut dit que...
Je vais faire la même réponse qu'à vous tout à l'heure. Je ne peux pas m'exprimer puisque dorénavant on est saisi. Donc on va instruire, on va être amené à se prononcer. Ce que je veux dire quand même, et le Conseil l'a rappelé dans la décision sur le discours d'Éric Zemmour à la Convention de la droite, la liberté d'expression, oui, la liberté éditoriale, oui, la polémique, oui, on est au pays de Voltaire, le débat ne doit pas être aseptisé. La France est assaillie de questions, de problèmes, c'est normal que ces questions soient nommées, soient évoquées, que le débat puisse avoir lieu dans les médias. S'ils n'ont pas lieu là, on ne sait pas où est-ce qu'ils auraient lieu. Mais il y a des limites, ces limites ce sont celles qui sont posées par la loi, et dès qu'on rentre dans la violation d'un principe posé par la loi, que ce soit l'appel à la haine ou à la discrimination, eh bien à ce moment-là, le CSA interviendra. Donc il y a un équilibre très subtil à établir chaque fois dans les deux cas. C'est pas de la prudence. Hein. Le collège est tout à fait déterminé sur ces positions-là, mais il faut avoir des positions qui soient proportionnées et adaptées en tenant compte de ces contraintes juridiques que j'évoquais.
Zoé Sfez.
Deux questions justement sur ce discours de Éric Zemmour à la Convention des droites. Comment est-ce que vous lisez que ce soit le fait que ce soit LCI, qui est la concurrente directe de CNews, qui ait décidé de diffuser son discours dans son intégralité? Et surtout, deuxième question, on parlera tout à l'heure du respect des temps de parole des politiques, notamment en période de campagne présidentielle ou municipale, de campagne politique en général. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de statut de quelqu'un comme Zemmour avec cette création finalement de ces dernières années en France, le statut de polémiste qui fait de ces hommes qui sont à la fois engagés politiquement et ne sont pas avec des étiquettes? Comment est-ce que le CSA peut aborder cette question à l'émergence de ces figures-là qui finalement occupent presque plus de temps de parole aujourd'hui dans les médias que les politiques?
Alors c'est la lecture qu'effectivement LCI a fait quand ils ont monté cette émission dans le format qu'ils ont retenu, c'est de considérer que finalement Éric Zemmour faisait partie du paysage politique. Mmh. Donc ils ont monté cette émission comme ils l'auraient fait avec un élu de la République ou un représentant d'un parti politique. Mais à ce stade, ce n'est pas le cas. On lui a proposé de rentrer en politique. Madame Le Pen lui avait proposé d'être sur ses listes. Et il avait décliné. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on a considéré que le format qui avait été adopté, qui est sans équivalent, c'est la première fois qu'on donne une tribune de plus de 30 minutes à quelqu'un qui n'est pas engagé dans une formation politique, n'était pas un format adapté parce qu'il ne permettait pas d'assurer la maîtrise de l'antenne. Et d'ailleurs, on a constaté que le discours d'Antoven qui est passé lors de cette convention n'a pas lui été retransmis. Mais c'est vrai, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la question du pluralisme et de savoir si cette émission-là, avec sa tonalité, était de nature à remettre en cause la façon dont la chaîne respectait le principe du pluralisme. C'est un point auquel on sera attentif.
Emmanuel Paquette, toujours sur l'actualité.
Oui, alors cette semaine, Disney a lancé son service Disney+, qui est une nouvelle plateforme, ce qu'on appelle en Europe SMA, de service multimédia audiovisuel. Donc c'est aussi une plateforme qui arrivera en mois de mars en Europe, même si elle est déjà présente aux Pays-Bas depuis le 12 novembre. En 24 heures, 10 millions de personnes se sont enregistrées sur cette plateforme. Donc c'est
24 heures. Ouais.
En 24 heures, alors que les analystes attendaient 8 millions d'abonnés d'ici à la fin de l'année. Mmh. Et surtout, Disney pariait sur 20 à 30 millions d'abonnés d'ici à 2024. Donc Disney devance largement ses objectifs. Comment vous allez pouvoir gérer un tel tsunami de cette demande, de cette offre de médias audiovisuels qui arrive bientôt en France, puisqu'aujourd'hui on a déjà Netflix, Apple TV+, et puis bientôt donc effectivement Disney+, et puis probablement HBO Max aussi.
Je crois qu'on est au début de l'onde de choc. Ça va être une onde de choc considérable pour le paysage audiovisuel. Ces acteurs sont d'une puissance financière absolument colossale, avec une capacité d'investissement dans la création quasiment sans limite, si je puis employer cette expression, et avec une force technologique qui est absolument considérable. Les algorithmes, Aurélie pourra en parler savamment, qui sont remarquablement faits. Alors aujourd'hui, ils interviennent sur le marché domestique, ou en tout cas certains ont déjà commencé à intervenir sur le marché domestique, c'est le cas de Netflix. Ils sont soumis, comme vous le savez, à aucune obligation du pays de destination, c'est la règle qui est actuellement en vigueur, et donc on a une situation d'asymétrie concurrentielle caractérisée, avec d'un côté des acteurs historiques qui sont soumis à un cadre fiscal, social, et surtout à des obligations de financement de la création très importantes, et qui ont en face d'eux des concurrents, 6 millions d'abonnés pour Netflix cette année, excusez du peu, considérables. Et donc l'enjeu central du projet de loi audiovisuel à venir, avec la transposition de la directive SMA, c'est ça, c'est de rééquilibrer cette asymétrie concurrentielle.
Mais alors, comment obliger ces acteurs-là à respecter le droit contrairement aux chaînes, parce que les chaînes de télévision aujourd'hui, on leur donne un bien public, qui sont des fréquences, et donc, au regard de ces fréquences qui sont données, qui sont un bien public, il y a des obligations. Or, ces acteurs-là n'ont pas de fréquence, mais sont soumis à obligation. Alors, donc, est-ce que ça ne crée pas une nouvelle asymétrie si je me mets du côté des plateformes américaines?
Bien sûr. Ce que prévoit la directive SMA, il faut le rappeler, c'est que donc en matière d'obligation de financement de la création, par dérogation au droit européen, on aura la possibilité d'appliquer les règles du pays de destination. Donc, Netflix a beau être installé aux Pays-Bas, il diffuse en France, il touche environ 6 millions d'abonnés. Et donc, au regard de la loi, on sera en mesure de conventionner Netflix et dans cette convention, de lui imposer des obligations de financement. Deuxième obligation que prévoit la directive SMA, c'est des quotas d'exposition d'œuvres d'origine européenne. La directive prévoit un socle minimum de 30%. Là, c'est un peu compliqué, mais c'est la règle du pays d'origine qui continue à s'appliquer. Donc, c'est les pays nationaux d'implantation de ces plateformes qui créeront ces quotas, et c'est les régulateurs nationaux de ces pays qui s'assureront qu'on le vérifie. Moi, j'ai pas de raison de penser à ce stade que les plateformes ne joueront pas le jeu du droit français. Plusieurs d'entre eux se sont déjà exprimés publiquement à plusieurs reprises. J'étais encore la semaine dernière à Dijon, rencontre de l'ARP avec les représentants de Netflix, qui ont très explicitement dit publiquement à la fois qu'ils participeraient aux négociations interprofessionnelles et qu'ils respecteraient la règle du jeu française. Donc à partir du moment où ils seront rentrés dans une logique de conventionnement pour la partie financière, soit ils respectent leurs obligations, soit ils ne les respectent pas. S'ils ne les respectent pas, c'est la loi de 86 qui s'appliquera et les mécanismes de sanctions qu'on a évoqués tout à l'heure. Là où il y a un sujet, c'est s'il y a un refus de conventionnement effectivement de cet acteur. Et c'est un des points que nous soulevons dans l'avis que nous venons de rendre au gouvernement. Nous souhaitons que le projet de loi soit renforcé sur ce point pour que notamment nous ayons la faculté de saisir un juge pour demander à un distributeur d'interrompre la distribution d'un acteur qui ne se conformerait pas à cette obligation.
Couper le signal, quoi. Comme en Chine.
Par l'intermédiaire d'un juge.
Ce qu'on fait dans les cas de pédophilie et terrorisme.
Par l'intermédiaire d'un juge.
Vous pensez que c'est proportionné?
Je crois que c'est proportionné. Le seul point qui est, pour le coup, alors vraiment est difficile et à ce stade sans réponse, c'est la diffusion sur l'Internet ouvert. Ce qu'on appelle l'OTT, sur lequel, alors là, pour le coup, effectivement, on voit pas bien les dispositifs juridiques qu'on peut imaginer. Mais c'est, voilà, la loi européenne est celle-là. Elle sera déclinée dans le droit français aujourd'hui, et donc c'est normal qu'elle soit appliquée.
Pour terminer cette actualité assez riche cette semaine, le Français Thierry Breton, dont la nomination a été validée à la Commission européenne, et notamment il s'occupera de numérique, c'est bien?
Écoutez, c'est un très bon connaisseur de l'économie numérique, c'est un très bon connaisseur des questions audiovisuelles auxquelles il s'intéresse lui-même depuis longtemps. Donc avoir un portefeuille aussi important détenu par un patriote, c'est effectivement important parce qu'on est à un moment où très vraisemblablement cette Commission européenne va être en initiative dans le champ numérique. On parle d'une éventuelle révision de la directive e-commerce notamment. Et donc avoir une personnalité de cette envergure est important pour nous.
Ça peut être un bon duo avec Margrethe Vestager qui a fait d'ailleurs la une du Point la semaine passée.
Ça peut faire un duo redoutable.
À quand Rome à la une de l'Express ou de l'Obs?
Écoutez,
on vous appelle pas Rome en fait.
C'est pas moi qui en déciderai.
Écoutez, Rome pour Olivier Mestre, voilà. Faut le rappeler.
À suivre. Allez-y, pardon.
Notre ambition, si on en a une, en tout cas, elle est partagée par le collège et les services du CSA, c'est de faire rentrer ce régulateur vraiment dans le 21e siècle. Et en l'espace d'une année, puisqu'on arrive déjà une année, c'est quand même pas banal. Moi, j'ai jamais connu ça en 40 ans de service public, de vivre une directive européenne et trois textes de loi qui intéressent la même institution. Donc c'est vraiment en l'espace d'une année un régulateur qui est en train de muter.
C'est de tout cela dont on reparle dans quelques minutes avec vous, Roch-Olivier Mestre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Juste après, à suivre dans Soft Power, Aurélie Jean, auteur du livre « De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes ». Et donc on vous retrouvera, Roch-Olivier Mestre, juste après ça. Et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot, un peu de musique quand même sur France Culture, un mot sur « Welcome to the Jungle ». C'est le nouvel album de Riles, le chanteur français de 23 ans, qui est un véritable phénomène international en ce moment, autodidacte, le jeune rappeur normand a tout appris seul, hein, sur des tutos sur YouTube et enregistré ses chansons tout simplement dans sa chambre avec du matériel acheté, dit-on, grâce à sa bourse d'étudiant. Il postait une chanson chaque dimanche, peut-être à l'heure de Soft Power, sur YouTube. On appelle ça en anglais, on dit un do-it-yourself artist, celui qui s'est fait tout seul. L'étudiant de la banlieue de Rouen était également en licence d'anglais et du coup, il chante en anglais, ce qui lui a permis de toucher un public global et de décrocher un contrat avec un label américain, Republic Records, filiale d'Universal, et qui a notamment fait connaître Amy Winehouse ou Drake. Sa chanson YouTube, sa chaîne YouTube, comptabilise déjà 350 millions de vues. C'est pas mal pour un Français, notamment ce titre Queen que l'on écoute. Riles est en concert ce mois-ci partout en France. Au Zénith de Paris en décembre, c'est même déjà complet. Bienvenue dans la jungle de l'industrie musicale jeune Riles, Queen sur France Culture. Feel like I'm done, calling my dumb, rolling the blunt, hey. She left me up, cause she my queen, yeah she the one, hey. I reminisce, she kill the splint, then I go on. I make a song, call it a week, how life is fun. Hey, well, of something, washing with love to me. Hey, well, of blessings, come when I'm diving in. 213 calling, yeah, my phone feeling great. If I don't quit, it means I never quit. Now we really rockin' fashion shows. My friends designing clothes. My yama quit the workin', but back out another hoes. Riley Sanders finally grows. Been 2 years in a row. Your patience was the key, and now we're kicking with the pros. Yeah, I'm coming now, coming. Dive running now, running. Never gone if I'm leaving. Keep on going if I go away. Bitches AMs, done with the gang, then I see trains. When you too far, I'm getting close, setting my sins. Lot of despair, many mistakes in my defense. Skipping the love as if it was getting my legs. Yeah. Hey, well, of something, watching real close to me. Hey, well, of blessings, come when I'm diving in. 213 calling, yeah, my phone feeling great. If I don't quit, it means I never quit. Yeah, yeah. My Adderall, my sins are so. We feel like kids, and I feel like yours. My bitch is smart, my bitch is dope. My bitch is dangerous, she a real bad. And baby, if I dive, let me in. In case I'm drowning, maybe I'll meet you as an angel. Feel like I'm done, calling my dumb, rolling a blunt, hey. She lift me up, cause she my queen, yeah she the one. I reminisce, she got the spin, then I go on. I make a song, girl in the wig, I love it fun. When they wall or something, watching real close to me. Hey, wall of blessings, come when I'm diving in. 213 calling, yeah, my phone feeling great. If I don't quit, that means I never quit.
L'année prochaine.
18h42 dans l'année prochaine et même cette année, 18h42 sur France Culture. C'était donc à l'instant le petit Français de Rouen, âgé de 23 ans. Son nom, retenez-le, Riles.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel. Bonsoir Aurélie Jean.
Bonsoir Zoé.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, alors vous m'avez dit juste avant cette émission, on se limite à dire que je suis docteur en sciences et entrepreneur parce qu'effectivement on pourrait
trop
vous définir. Vous avez beaucoup de casquettes dont une récente qui est mentor à la NASA.
Oui, depuis cet été. Oui.
Voilà. Vous êtes donc, alors le terme qu'on utilise souvent c'est numéricienne, ça vous va?
Oui, ça me va tout à fait.
Numéricienne, parce qu'en fait, votre travail, c'est de développer des algorithmes, de l'enseigner aussi, cette science des algorithmes, à la fois pour des entreprises et à l'université. Vous racontez votre livre, votre parcours dans un livre qui s'appelle « De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes ». Alors vous, vous êtes bretonne et c'est intéressant, on vous le racontez, vous êtes dans une formation tout à fait franco-américaine, vous avez été formée à la Sorbonne, à l'ENS.
À Sorbonne Université,
excusez-moi. Oui. Mine Paritech,
oui.
Il y a trop de changements de nom.
Trop de changements dans les noms.
C'est ça. Et au MIT, la légendaire université de Boston. Quel est le projet de ce livre pour vous, Aurélie Jean? C'est un livre qu'on sent militant d'une certaine manière sur la manière dont vous en faites un récit tout à fait personnel. Vous êtes une femme jeune, vous n'êtes pas une geek et vous racontez en fait dans ce livre comment vous-même découvrez ce monde de l'algorithme.
Oui, merci. Oui, absolument. En fait, j'ai commencé ce livre il y a 2 ans pour justement décrire à travers mon expérience et mon histoire depuis l'âge de 18 ans où j'ai mon premier ordinateur. Donc, j'étais très en retard. Enfin, oui. Moi, je pense du coup, ça donne de l'inspiration à tout le monde.
Regardez pas Star Wars.
Non, je n'aime pas Star Wars. Je suis désolée. Et donc, j'explique dans le livre mon parcours, mon histoire, et j'essaie aussi d'accompagner le lecteur, même à travers l'écriture de mon premier algorithme que j'invite le lecteur à l'écrire avec moi, de façon à démystifier cette discipline et à quelque part aider le lecteur à avoir une certaine grille de lecture pour dépassionner les débats et ramener le tout à la raison.
Alors, parce que c'est très intéressant, est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est un algorithme ? Moi, personnellement, je faisais une erreur orthographique relativement souvent au début où j'écrivais algorithme avec un Y. On réapprend dans ce livre l'origine tout simplement sémantique de ce mot qui n'a rien à voir avec le grec.
Non, absolument pas. Oui, vous
avez... Pourquoi c'est important de le rappeler et que c'est surtout un processus mathématique avant d'être informaticien ?
Absolument. Alors c'est important de le rappeler parce que je pense qu'avec l'accélération des technologies et de tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, je pense qu'il est important de se resituer dans les temps longs. Donc je le fais aussi dans le livre, dans les premières pages où j'explique que le mot algorithme vient du nom latinisé algorithmi du grand mathématicien perse Al-Khwarizmi, mais le concept même, donc ça c'est le 9e siècle de notre ère, mais le concept même d'algorithmique en fait vient de 3 siècles avant notre ère parce que c'est Euclide qui propose avec son livre Les éléments, son œuvre Les éléments, des méthodes de résolution mathématiques, logiques pour résoudre un problème, répondre à une question. Donc l'algorithme, en fait, c'est une séquence en fait d'opérations, mathématiques ou pas d'ailleurs, pour résoudre un problème, répondre à une question. Et lorsqu'on parle d'algorithme aujourd'hui, on sous-entend l'algorithme numérique qui est en fait un algorithme dont le but est d'être implémenté dans un ordinateur à travers un code informatique pour pouvoir tourner sur un ordinateur.
Alors effectivement, on découvre avec vous comment est-ce que vous commencez à écrire des algorithmes, c'est-à-dire avec une feuille et un stylo et pas avec un ordinateur.
Je continue à les écrire avec une feuille, ouais, exactement.
Comment est-ce qu'on les pense quand on vous suit dans votre première recherche, vous travaillez sur le caoutchouc et sur la manière dont on peut prédire la manière dont le caoutchouc évolue en fonction de la matière qu'on a assemblée. Et très vite arrive, mais pas si vite en réalité, la notion de biais algorithmique que vous découvrez relativement tard dans votre carrière. Ça, c'est assez étonnant.
Absolument. Je l'ai découvert en fait à travers ma recherche dans la médecine, c'est-à-dire juste après ma thèse en 2009, plus exactement à l'Université d'État de Pennsylvanie avec le professeur George Engelmeyer, qui lui en fait se battait contre les biais dans le cadre de la recherche médicale, des essais cliniques par exemple, ou des essais en laboratoire, et qui m'a dit « mais est-ce qu'il y a des biais dans tes algorithmes ?» Et ma première réaction, c'est ce que j'écris dans le livre, je rigole, parce que je dis « bah non, il n'y a pas de biais vu que c'est des maths. » Voilà. Et donc de là, il m'explique comment il pense qu'on peut aussi introduire un biais dans les algorithmes à travers nos hypothèses, nos connaissances peut-être biaisées de la réalité, ou tout simplement à partir d'essais cliniques ou d'observations, de tests de la part de médecins qui sont possiblement biaisés également.
Là, on a eu un cas récent avec Apple et ses solutions bancaires. Que s'est-il passé ? Parce que ça, vous le rappelez, et on en parle régulièrement dans cette émission, l'algorithme apprend par des données et le passé peut l'induire en erreur.
Exactement, donc il y a un cas très récent en fait, qui s'est passé la semaine dernière, il y a 10 jours maximum, avec l'application de Apple Card, qui en fait estime pour vous donc la somme qui peut vous être proposée dans le cadre d'un crédit. Et on a remarqué que les hommes et les femmes, pour les mêmes conditions fiscales et le même historique de crédit, on pouvait avoir jusqu'à un facteur de 20, un rapport de 20 entre les sommes proposées aux femmes et aux hommes. Et bien évidemment, on propose des sommes moins importantes pour les femmes. Et
donc, un revenu fiscal égal avec exactement
historique,
les mêmes garanties.
Exactement. Donc en fait, la raison est assez simple, mais à la fois assez compliquée. C'est qu'en fait, comme vous l'avez très bien dit, Zoé, les algorithmes apprennent sur des données du passé. Donc ils ont le risque de reproduire le passé. Et comme on le sait, l'émancipation économique des femmes de ces 20 dernières années, par exemple, a fait qu'aujourd'hui, on gagne sûrement plus et on a encore des inégalités salariales, donc il y a encore des choses à faire. Mais cet algorithme a sûrement appris sur le passé où les femmes avaient des crédits moins importants, moins d'argent sur leur compte en banque, ou peut-être, voilà, tout simplement. Donc l'algorithme a reproduit ce qu'il y avait dans le passé. Donc c'est très important de comprendre comment ces algorithmes fonctionnent, sans aller dans le détail mathématique, mais de comprendre ce qu'ils font de manière à pouvoir avoir un œil critique lorsqu'on déploie ces algorithmes en production pour que les gens les utilisent. Donc c'est le cas de l'application d'Apple.
Et vous le balayez en fait effectivement dans la première partie de ce livre, et tout au long de ce livre effectivement, les vigilances que l'on doit avoir à l'égard de ces algorithmes. Vous dites aussi, vous racontez dans plusieurs exemples pourquoi on ne peut pas confier toute la responsabilité de la réalité à des algorithmes quand il s'agit d'évaluer les victimes d'un attentat, quand il s'agit de rendre des décisions de justice. Et en même temps, dans un double moment, vous invitez aussi les gens à ne pas se cacher derrière l'algorithme. Vous parlez par exemple de la manière dont on a chargé l'algorithme de Facebook dans les émergentes d'un mouvement comme les Gilets jaunes.
Oui.
Exactement. Pourquoi est-ce que c'est important justement? Quel est le fonctionnement que vous voulez déminer là-dedans?
Alors justement, donc moi je suis une techno-réaliste, c'est-à-dire que j'aime mon métier, j'aime les algorithmes, ils font des choses formidables, mais vraiment, dans la médecine, dans l'éducation, la finance, plein, dans le journalisme même. Mais ce que je dis en fait aussi, comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se cacher derrière l'algorithme. L'algorithme propose une décision, propose une suggestion de décision, mais ne vous donne pas une décision, il n'y a pas de vérité absolue en fait. Et c'est vrai que, et aussi dans le cas de l'algorithme de Facebook, c'était donc il y a un an,
on avait parlé ici dans Softpower.
D'accord.
Changement d'algorithme qui privilégiait plus les groupes,
les individus. Ah. Voilà, ce qui est très important. Et donc, on a commencé, j'ai vu pas mal de choses dans les médias disant qu'en fait, c'était l'algorithme de Facebook qui avait créé le mouvement des Gilets jaunes, un raccourci qui est pour moi quand même grossier. Et donc, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, on ne peut pas culpabiliser l'algorithme de Facebook pour la création d'un mouvement. C'est pas possible. Sinon, à ce moment-là, on peut aussi culpabiliser, inculper les lignes de TGV et les emails ou le téléphone contre la poste et les voitures pour le déplacement d'individus et de leurs opinions. Donc il faut aussi avoir ses propres responsabilités et rationner, enfin, donner une certaine raison à ces débats pour comprendre ce qui se passe et voilà.
Alors on parlait, on chroniquait ici la semaine dernière avec Emmanuel Paquette, le livre de Yael Nequin que nous avons lu avec beaucoup d'attention, qu'on a aussi beaucoup aimé, mais en même temps qui est un livre sur l'intelligence artificielle. L'algorithme fait partie des mécanismes qui sont au cœur de l'intelligence artificielle.
Avec et en particulier sur le deep learning.
En particulier sur le deep learning, qui est la forme qui l'intéresse le plus. Et on regrettait un petit peu dans ce livre, finalement, que Yael Nequin n'aille peut-être pas au bout des enjeux éthiques profonds que pose la mutation prochaine qu'on va vers l'IA. Vous, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui dans notre rapport à ces intelligences artificielles?
Bien sûr, moi ce que je préconise, et c'est ce que j'essaie de faire à la hauteur de mes moyens avec ce livre, c'est de donner les clés aux gens pour comprendre à la hauteur de leurs moyens et qu'ils puissent avoir le choix. Il y a un moment dans le bouquin, justement, je dis, je ne veux pas qu'on entre dans une société où seuls les gens qui comprennent auront le choix. Moi, je veux que les gens aient le choix sur les outils qu'ils utilisent, sur ce qu'ils font, comment ils le font, donc qu'ils comprennent ce qui est fait avec leurs données, comment la donnée est collectée, comment elle est effacée aussi, et savoir aussi de comprendre ce qui se passe derrière ces outils, et que ce soit des plateformes, des applications, des logiciels pour le travail ou pour la vie privée.
Et concrètement, pour faire le lien avec l'émission que nous allons continuer avec Roch-Olivier Maistre sur les CSA, le CSA a une mission de surveillance, une mission d'étude. Dans ses nouvelles missions élargies, il va avoir à traiter avec les plateformes dont Netflix, mais évidemment aussi avec YouTube, où les algorithmes, pour le coup, existent. Il y a une grande opacité à la fois sur la manière dont ils fonctionnent. Quel pourrait être le rôle? Vous parlez des gens qui comprennent. Quel devrait, selon vous, être le rôle d'une entité comme le CSA? Face à ces algorithmes-là, est-ce qu'il faut, à mon avis, il y a une nécessité de coopération?
Oui, c'est ce que disait Roch-Olivier Maistre, c'est-à-dire que c'est un secteur en mutation. Donc il y a l'algorithme qui rentre en jeu parce qu'on a des nouveaux médias, des nouveaux modes de diffusion et de suggestion. Donc c'est vrai qu'il faut que le CEA s'arme, et il le fait déjà, parce que c'est un hasard, mais en fait on se connaît avec le président du CSA, puisque je fais partie du comité d'experts de protection de la jeunesse, en lien avec l'algorithmique de ces plateformes. Donc on essaie de comprendre comment ces algorithmes fonctionnent pour essayer de proposer même des solutions aux grands acteurs. Et donc ça passe aussi...
Vous essayez de comprendre, donc ça veut dire qu'ils ne vous donnent pas accès à ces algorithmes.
C'est plus compliqué que ça, voilà. Donc on essaie de comprendre par ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, de l'ingénierie inversée, puis aussi on discute avec eux aussi. Donc c'est important. Donc il faut aussi que ces plateformes, YouTube, puissent travailler aussi avec le CSA pour s'en donner, s'ils ne veulent pas donner tous les éléments de la recette magique, en tout cas, donne des éléments en toute transparence sur ce qu'ils font avec la donnée, sur ce qu'ils recherchent à faire avec ces algorithmes, de façon à ce que le CSA puisse aussi proposer des solutions s'il y en a, et il y en a beaucoup.
Et est-ce qu'il vous semble à l'écoute? Réponse à tous les deux questions, à tous les deux. Parce que vous m'avez parlé du fait, par exemple, que vous avez mis en évidence le fait qu'un algorithme censé protéger des jeunes pour qu'ils ne soient pas exposés à de la pornographie ou des images violentes, vous avez montré qu'il était mis en échec.
Alors, il était mis en échec, ce n'est pas moi qui l'ai démontré, ça a été
le CSA.
Résultat. Même, ça a été vu dans les news, en fait. Des enfants ont été sur YouTube, ont vu du contenu qui ne leur était pas destiné. Je pense qu'on leur a parlé, par exemple, et c'est vrai qu'on a eu des retours intéressants, et ça ne marchera que sur du moyen terme. Ce n'est pas sur une réunion que ça peut marcher, mais en tout nous, on propose aussi des solutions au sein du comité d'experts, et parfois des solutions qui ne sont pas forcément des solutions algorithmiques. C'est ça qui est intéressant.
Merci beaucoup Aurélie Jean. Je rappelle le titre de ce livre, De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Vous êtes un peu Alice au pays des merveilles.
Exactement.
La métaphore de l'autre côté du miroir que vous filez.
C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Voilà, ça paru ce vendredi, je crois. France Culture,
mercredi.
Voilà. Et c'est vrai que les livres sortent le mercredi comme les films. Voilà. 18h53 sur France Culture. Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est notre invité ce soir dans Soft Power. Il est interrogé par Sandrine Cassini du journal Le Monde, Emmanuel Paquet de L'Express et Zoé Sfez de France Culture. Alors au sommaire de cette deuxième partie d'émission, on va revenir sur la réforme du CSA, on va revenir sur le lien avec Hadopi, les contenus haineux, les fake news, la loi Avia, on discutera de l'audiovisuel public, des autres points de la nouvelle loi audiovisuelle et puis des relations avec les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et la question de la création française. Et puis si on a le temps, on parlera aussi du pluralisme électoral, tout ça avec vous, Roch-Olivier Maistre. Je reviens sur votre parcours un instant. Vous êtes né au Maroc en 1955, vous avez fait Sciences Po et l'ENA, ça compte comme il se doit dans ce genre de profession. Entre 86, il y a toujours la petite critique sur l'ENA qui arrive sans qu'on l'attende. Entre 86 et 88, vous êtes jeune conseiller en charge déjà de la loi audiovisuelle auprès du ministre de la Culture de l'époque, François Léotard. Loi audiovisuelle que vous connaissez donc bien, loi célèbre, loi de 1986. Vous avez été ensuite directeur général de la Comédie Française, conseiller du président Chirac pour la culture et donc la communication. Vous succédiez à l'époque à Christine Albanel. Vous avez intégré la Cour des comptes au tour extérieur et en janvier de cette année, donc 2019, vous avez été nommé par Emmanuel Macron à la tête du CSA. Une question avant d'en venir aux questions de fond. Qu'est-ce qui vous a motivé au fond, attiré, séduit dans ce poste et la perspective de devenir le régulateur, sinon même le gendarme de l'audiovisuel français?
Alors pour être franc, j'ai été pris un petit peu par surprise, hein. Je l'ai dit très, très simplement, puisque comme vous le savez, j'étais rapporteur général à la Cour, c'était une fonction éminente dans cette institution, et j'étais en train de boucler le rapport public annuel de la Cour, celui qui a été publié le 6 février de cette année, ici. Et c'est un petit morceau de bravoure, le rapport public annuel de la Cour. Et donc j'étais totalement concentré sur cette affaire, et je ne pensais à tout sauf au CSA, jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil un dimanche après-midi, et que cette hypothèse soit évoquée. Alors qu'est-ce qui a amené ma décision? Bah, d'abord, quand vous êtes quand le président de la République envisage de vous nommer sur un poste très important du paysage institutionnel français, ça ne se refuse pas. Déjà en soi, ça pourrait être une première réponse. Mais plus sérieusement, j'ai pensé qu'après 40 ans de service public avec un fil rouge dans le champ de la culture et de fait de la communication par les différents croisements professionnels que j'ai faits, c'était probablement un moment de bonne synthèse dans mon parcours professionnel. Et puis surtout, ce qui m'a vraiment décidé, c'est le moment. C'était vraiment cette conviction qu'on vivait un moment de bascule dans ce domaine et que ce serait une mission passionnante que de faire muter, comme je le dis tout à l'heure, ce régulateur pour embrasser son temps et son monde. Et j'avoue que je ne suis pas déçu. C'est une fonction qui est absolument passionnante. Moi, j'ai pas vu passer l'année qui vient de se dérouler. J'arrive pas à croire d'ailleurs que ça fait déjà presque un...
Bon, ça fait que 9-10 mois, donc ça va. Alors, première partie, la réforme du CSA, justement, Emmanuel Paquet.
Oui, comme le disait Frédéric, vous allez avoir de nombreuses missions nouvelles, à moyens aujourd'hui qui sont égaux. Alors je suppose que il va falloir que vous négociez des moyens au moment où on fait plutôt attention au budget de l'État. Dans vos nouvelles attributions, il y aura notamment la lutte contre le piratage, avec le rapprochement avec l'Hadopi, dont on a parlé précédemment. Également la lutte contre la circulation des propos haineux sur les réseaux sociaux, qui est aussi un des grands chantiers aujourd'hui d'Emmanuel Macron, puisqu'il avait invité même Mark Zuckerberg à en parler directement avec lui à l'Élysée pour essayer d'établir une solution. Donc on voit aujourd'hui beaucoup de missions, relativement peu de moyens, au moment où justement, au niveau budgétairement, on fait attention. Donc comment vous allez essayer d'obtenir des moyens pour ces nouvelles missions, et à combien vous évaluez ces moyens?
Alors c'est une réforme qui en réalité va être séquencée. Hein. Si on prend la fusion avec Hadopi, elle ne sera définitive qu'à partir de janvier 2021. Donc les problématiques de moyens ne se poseront qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2021. C'est sûr que ces missions, on ne pourra pas les exercer à moyens constants, d'autant qu'elles exigent pour la plupart une montée en compétences. Aurélie Jean parlait des algorithmes. Connaître les algorithmes, c'est des savoir-faire, c'est des expériences très, très, très particulières. Traiter les données de masse, qui va être un élément central dans l'économie du numérique, suppose aussi d'avoir des techniques et des moyens de régulation plus importants. Donc première réponse, on va avoir la fusion avec Hadopi, donc c'est grosso modo 60 personnes. Deuxièmement, il y a l'articulation avec l'ARCEP qui va nous permettre d'avoir une collaboration renforcée, de pouvoir nous appuyer aussi sur l'expérience de cette autorité.
Le gendarme des télécoms.
Oui, effectivement, le gendarme des télécoms. Et puis, il y a un projet qui est en cours de gestation au sein de l'État, de créer un, ce qu'on appelle un service à compétence nationale qui rassemblerait précisément des ressources humaines aux services qui sont des ressources rares et chères, aux services à la fois des administrations qui travaillent dans le champ numérique, mais aussi des autorités comme les nôtres qui seront amenées à travailler dans ce champ. Et le projet de loi audiovisuelle nous habilite déjà par anticipation à pouvoir faire appel à ce service. Mais c'est sûr, c'est douloureux pour un magistrat des comptes de dire ça, il faudra demander des moyens supplémentaires et nous le ferons.
Alors sur cette réforme du CSA, il y a déjà un nom, un nouveau nom éventuellement pour le CSA du fait de la fusion avec Hadopi, mais pas seulement. Vous deviendriez l'ARCOM. Pourquoi changer de nom? Au fond, il y a déjà eu la Haute Autorité, ça avait été remplacé par la CNCL. Finalement, le CSA s'est installé, que ce soit la droite ou la gauche. À quoi ça sert de nom? Même si évidemment c'est le législateur et pas vous qui êtes responsable de ce changement de nom, mais vous en pensez quoi?
Écoutez, le choix, je crois, vient d'abord du souci d'harmoniser les appellations des autorités de régulation.
Ça, c'est très français, ça. Oui.
C'est le côté jardin à la française.
Oui, même centralisateur démocratique, et voilà, jacobin.
Et puis, il y avait la volonté du gouvernement, je pense, d'afficher très clairement le fait que la compétence du CSA s'étendait sur le champ numérique. Donc, l'autorité s'appellera Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Voilà, c'était ça le sens. C'est un moment de changement, donc ça sera l'occasion d'asseoir un nouveau nom. Ça sonne pas mal, l'ARCOM. À un moment, on avait envisagé l'Arcan, mais on a craint que ça fasse arcane, et donc on voyait déjà les articles qui pourraient poindre et ironiser sur
Sandrine Cassini.
La complexité de l'Arcan.
Oui, alors du coup, on comprend qu'on a l'impression que le CSA devient un peu le régulateur de l'Internet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et il y avait un projet aussi de fusionner éventuellement avec l'ARCEP qui avait été évoqué à nouveau, qui est une espèce de vieux serpent de mer. Mais finalement, ça a été abandonné. Est-ce que ça n'aurait pas été souhaitable, justement, en ce moment de mutation et de convergence, hein, un petit peu des tuyaux, des contenus et...
Alors écoutez, deux remarques. D'abord, on ne sera pas le régulateur d'Internet.
C'est pas vous qui allez diriger Mark Zuckerberg?
Non, ça...
Vraiment
ça,
même pour la partie française.
Vous rassurez, on va intervenir à l'égard de quelques plateformes, quelques services de contenu, certains nombres qui sont identifiés par la loi et le décret, mais on ne sera pas le régulateur d'Internet. Vis-à-vis de l'ARCEP, il y avait effectivement un scénario de fusion qui était sur la table. Je pense que c'était probablement l'option première du gouvernement. J'avoue que j'étais moi-même un peu en retrait. Je me suis exprimé plusieurs fois sur le sujet. Pourquoi ? D'abord parce que face à ces changements qu'on vient d'évoquer, la régulation va être très mobilisée par des sujets vraiment vraiment très lourds. Je crois qu'il faut en prendre conscience et je craignais qu'on soit embarqué dans un processus administratif de fusion.
Une usine à gaz qui prendrait
très lourd.
2-3 ans.
J'ai eu l'occasion de rencontrer ma tout à fait remarquable homologue anglaise, britannique, Sharon White, la patronne de l'Ofcom, qui m'avait expliqué qu'ils avaient passé 4 ans pour opérer leur fusion. Mmh. Et donc, je craignais...
Mais il va y avoir quand même un membre commun.
Donc. Exactement. Donc, le choix qui a été retenu, c'est celui d'une articulation renforcée entre les deux. Donc, il y aura un membre du collège de l'ARCEP qui siégera dans le collège de l'ARCOM, un membre du collège de l'ARCOM qui siégera... Donc, ça sera un moyen déjà d'acculturer les deux autorités. On aura une procédure commune de règlement des différends quand il y a des litiges qui intéressent les deux autorités. Et avec Sébastien Soriano, donc on a déjà bâti...
Le patron de l'ARCEP.
Oui. L'ARCEP, on a déjà bâti donc une convention visant à mettre en place un service commun qui nous permette de mener ensemble un certain nombre d'actions, typiquement dans le domaine des études.
Non, parce que là, nous, on sait tous de quoi on parle, mais très concrètement, quand on parle à nos auditeurs, donc vous allez effectivement vous concentrer sur, en gros, les plateformes qui sont intéressées par l'exception très large de l'audiovisuel et où il y a un produit culturel ou un produit qui entre dedans. Si vous étiez devenu une grande entité avec l'ARCEP, vous auriez eu à régler toutes les grandes questions industrielles,
et les
grands groupes comme Free, les télécoms, mais vous auriez peut-être pu, ça aurait peut-être pu éviter toutes les litiges qu'on a vus cette année avec Free qui bloque SFR, qui bloque Canal, etc., les chaînes de télévision.
Ces litiges,
Vous n'avez pas la main de toute façon.
Si, c'est nous qui avons traité ces litiges et c'est nous qui les avons, aidé à leur résolution. J'ai conduit moi-même personnellement une mission de médiation dans les deux cas qui a permis finalement de se conclure par un accord. Je pense qu'il faut bien voir que les deux régulations restent quand même assez différentes. Ouais. L'ARCEP fondamentalement est née de l'ouverture du marché des télécoms, donc c'est une régulation au départ foncièrement économique, alors que nous sommes une régulation sur le contenu. Ouais. Donc c'est assez différent et quand vous regardez les groupes intégrés que nous connaissons, donc le groupe Bouygues avec Bouygues Télécom, TF1, le groupe Altice, avec SFR et Next, les chaînes que pilote Alain Veil. Certes, il y a des synergies qui existent entre les entreprises, mais elles sont en réalité assez autonomes. Et donc, je pense que ça reste deux blocs de régulation relativement distincts.
Cela étant, aux États-Unis, la FCC, Federal Communication Commission, gère les deux très bien.
Oui, le régulateur anglais est un régulateur intégré. Il y a les deux modèles qui existent.
Sandrine Cassini.
Je pense que le choix qui est fait par le gouvernement, en réalité, est probablement un choix par étape.
Oui, alors on a l'impression aussi que dans cette nouvelle mission, la nouvelle mission un peu du CSA, enfin du futur ARCOM, change avec bientôt la mission de réguler la loi sur les contenus haineux, une fois qu'elle sera adoptée. Mais du coup, on a l'impression que vous entrez un peu dans une situation paradoxale. D'un côté... Non, mais en régulant...
C'est votre définition, là, le paradoxe, non ?
Oui, non, c'est paradoxal au sens où, d'un côté, les contenus qui passent à la télé, vous ne les régulez pas. Vous surveillez que les chaînes respectent bien leurs conventions, mais vous ne régulez pas les contenus haineux, par exemple, en tant que tel. Mais de l'autre côté, vous allez devoir surveiller les plateformes qui retirent ces mêmes contenus haineux sur Internet. Donc, vous entrez un petit peu dans ce champ du contenu et de... Comment vous assumez cette nouvelle mission ?
Mais la régulation qu'on fait sur les médias traditionnels, elle porte sur les contenus. Alors, on n'est pas un censeur au sens où on n'intervient jamais en amont. On intervient toujours a posteriori sur les objets dont nous sommes saisis. Mais dans les conventions... on a la possibilité de sanctionner, on en a évoqué des cas tout à l'heure, s'il y a des contenus haineux qui sont exprimés.
Non, mais si par exemple on prend le cas d'Éric Zemmour, oui. Demain, ces vidéos d'Éric Zemmour qui seront par exemple sur YouTube ou sur Facebook, une fois que les internautes les auront signalées, s'ils les signalent, ces plateformes devront les retirer. Et en même temps, elles devront retirer des contenus que vous autorisez ou que vous laisserez à la télévision. Et c'est là où on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose de paradoxal dans ce nouveau champ de régulation.
Mais dans le champ de la régulation audiovisuelle, il ne faut pas se tromper, ce qu'on sanctionne, c'est les éditeurs. C'est pour ça que dans l'affaire Zemmour qu'on évoquait tout à l'heure, on a voulu jouer sur les deux registres. D'une part, saisir le procureur pour que la responsabilité de l'auteur soit engagée, et ça, on est sur le terrain judiciaire, et sanctionner l'éditeur par une mise en garde. Alors c'est vrai qu'avec la loi Avia, quand elle sera votée, elle vient au Sénat en décembre, donc c'est un texte qui est encore susceptible de connaître des évolutions. On va avoir un double dispositif. On va avoir une obligation pour les plateformes d'éliminer les contenus haineux qui leur sont signalés dans un délai de 24 heures. Et si elles ne le font pas, possibilité de saisir un juge qui prononcera des amendes. Et puis d'autre part, la loi fixe des obligations de moyens aux plateformes, dispositifs de signalement, vous connaissez le texte de la loi, et elle confie au CSA la mission de supervision de cette obligation de moyens. Donc ce n'est pas un contrôle des contenus que fera le CSA. Non, ça j'insiste beaucoup, ce serait une mauvaise interprétation du texte. Le contrôle du contenu, il sera opéré par le juge, c'est lui qui sanctionnera si un contenu n'a pas été retiré. Nous, on regardera si la plateforme a bien mis l'ensemble des moyens que la loi impose aux plateformes pour s'acquitter de l'obligation de retrait dans le délai de 24 heures. Donc on ne sera pas en position...
Donc les plateformes privées, demain, censureront des contenus qui sont autorisés. On arrive quand même à une situation qui peut paraître...
La logique de la loi, c'est effectivement une logique de responsabilisation de la plateforme avec l'obligation pour elle, effectivement, d'éliminer les contenus manifestement illicites de sa plateforme. C'est effectivement le sens du texte. On verra s'il va...
Le risque, c'est pas la censure, justement, de cette loi.
Il y a un débat, comme vous le savez, autour de ce texte. Hein. Il y a effectivement les plateformes d'abord, qui sont, comme vous le savez, en défense sur ce texte, qui font valoir leur point de vue aujourd'hui au Sénat. Et puis, il y a des partisans, des tenants de la liberté, si je puis dire. Par exemple, François Sureau, dans son dernier ouvrage, Sans la liberté, évoque explicitement ce texte de loi, en faisant la critique d'une forme de privatisation de la justice, effectivement, de faire porter la responsabilité sur la plateforme. On va voir comment ce débat va se clore au Parlement. Le texte a beaucoup évolué. Entre la toute première version que nous avons vue, il y a eu un énorme travail qui a été fait au Conseil d'État, notamment pour bien isoler la fonction du CSA par rapport à la fonction du juge, dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le texte va encore évoluer probablement au Sénat.
Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est notre invité ce soir. Vous avez évoqué, monsieur, le fait que vous allez intégrer, avaler peut-être, pourrait-on dire, la Hadopi. Un mot sur ce sujet. Hadopi, c'est plutôt une agence de sanctions, d'ailleurs une des agences les plus détestées sans doute par les jeunes Français. Le CSA était plutôt protecteur des libertés. Vous n'avez pas peur que ces deux sujets se télescopent et que vous deveniez, au fond, l'homme qu'on n'aime pas?
Merci de ce pronostic, cher.
C'est une question. Martel. C'est une question ouverte.
Et de cet horizon gracieux qui s'ouvre. Écoutez, on a tous en tête, bien évidemment, la jeunesse d'Hadopi, la façon dont elle est née. C'est vrai qu'elle a été structurée à un moment où la problématique du piratage était centré sur le peer-to-peer, comme on dit, le pair à pair.
Et où l'offre légale n'existait pas.
Le texte de loi, on verra quand il sera publié après son adoption par le Conseil des ministres, puisque le texte est encore en gestation, il est au Conseil d'État en ce moment. Le texte recentre beaucoup l'action, en réalité, sur ce qui est le vrai sujet, c'est-à-dire les plateformes de streaming illégales. Et donc, on va changer de nature dans l'approche, même si la riposte graduée restera.
Ça restera la riposte graduée avec la lettre, la première lettre, la deuxième lettre.
En l'état actuel du texte, oui.
On pourra donner le nom des films qu'on a vus?
Écoutez,
c'est ce qui est en débat.
Oui, c'est ce qui est en débat.
On pourrait vous envoyer une lettre en disant vous avez vu tel ou tel film.
Exactement, c'est un point qui est en débat.
Ça pourrait être un film pornographique.
Je vais revenir là-dessus. Je pense pour ma part que ça a du sens de rapprocher le CSA et l'Hadopi et d'avoir donc un régulateur unique qui couvre l'ensemble de la chaîne de la création, depuis la fixation des obligations de financement que nous savons très bien opérer au CSA depuis 30 ans et de surveiller le respect de ces obligations jusqu'au respect du droit d'auteur au bout de la chaîne. Je crois que ça fait un ensemble qui sera cohérent. Sur les films pornographiques, il y a une mission interministérielle qui vient de rendre ses conclusions. Donc le sujet est en débat au sein du gouvernement.
Le débat n'étant pas sur ce copyright qui existe aussi, mais sur le fait que vous allez éventuellement envoyer un signalement pour un film précis. On sait très bien que les signalements d'Hadopi arrivent sur une boîte email. On ne sait pas trop si c'est les parents, les enfants, la femme, l'homme qui vont les recevoir, ce qui pose un certain nombre de problèmes.
Bien sûr. Comme vous le savez, sur les films pornographiques, les Anglais avaient essayé de mettre en place un dispositif qui permettait de s'assurer que l'âge légal, la majorité était de l'usager était avéré. Ils y ont finalement renoncé pour des raisons de liberté publique. Donc j'attends de voir ce que seront les arbitrages du gouvernement sur ce sujet, qui est un sujet effectivement complexe juridiquement, parce qu'on ne rentre pas sur des contenus nécessairement illicites. On l'est bien évidemment dès qu'on est dans la pédopornographie, mais en soi, un film pornographique n'est pas illégal.
Oui, après un peu plus, il y a la question du droit d'auteur, sur quelle plateforme on les regarde, etc. Parce que ça reste des plateformes de streaming illégales pour la plupart d'entre elles.
Mais Emmanuel Paquette.
Oui, deux questions. La première, c'est effectivement, on va voir beaucoup de plateformes arriver l'année prochaine. Il y a une étude qui vient d'être faite au Royaume-Uni qui dit qu'avec cette fragmentation de l'offre, parce que si je veux voir du Star Wars, il faudra que j'aille chez Disney+, et ça sera nulle part ailleurs, il va falloir cumuler les abonnements. Et 63% des sondés ont dit qu'ils allaient se mettre au piratage. C'est des gens qui aujourd'hui ne piratent pas. S'il faut dépenser plus de 15 livres par mois. Donc il peut y avoir une résurgence, en tout cas un accroissement du piratage en raison de la multiplication ou la démultiplication des plateformes. Comment vous allez pouvoir gérer
C'est un risque avéré.
Parce que le point principal est que l'offre légale n'est pas comme la musique ou sur Spotify. Ou Deezer, vous avez tout. Là, vous devez avoir 5-6 abonnements pour House of Cards et puis un autre
Amazon Prime, etc.
Et vous n'avez aucun levier pour obliger.
On a une situation différente, effectivement, entre la musique ou le modèle qui a été mis en place avec les plateformes permet d'avoir un catalogue complet.
Et d'ailleurs, le piratage a largement diminué de ce fait.
Le piratage musique est en chute. À l'inverse, sur la vidéo, on a le paradoxe d'avoir un marché extraordinairement dynamique qui est tiré par les vidéos à la demande par abonnement, qui tire le marché à la hausse, mais une expérience cinéphilique, si je puis dire, qui est nécessairement décevante puisque les catalogues sont totalement éclatés. Deux tiers des catalogues de films ne se retrouvent que sur une seule plateforme. Donc effectivement, il faut cumuler les abonnements pour avoir une offre élargie en la matière, ce qui est nécessairement décevant, et ça va être accru effectivement par l'arrivée des grandes plateformes, puisqu'elles fonctionnent toutes sur le principe de l'exclusivité. Pour capter des abonnés, on leur propose des films en exclusivité.
Game of Thrones, c'est uniquement.
Donc quand
sur
vous êtes amateur de cinéma au dernier degré, ce qui est probablement mon cas,
et une bonne chose.
Il y a une frustration, et il y a effectivement le risque auquel on est tous confrontés maintenant de l'accumulation de ces abonnements, et il peut y avoir la tentation. Un abonné sur deux de Netflix pirate.
Oui, avec des codes d'autres, et on a vu qu'ils allaient travailler sur des
matériels. Pour les diminuer.
Et même question sur le sport en ligne. Parce que
même question pour le sport en ligne.
Une forte fragmentation.
Alors le sport, ce sera intéressant de regarder, mais je pense que l'explosion des droits sportifs a une conséquence qui est l'éviction des chaînes en clair. Et l'éviction des chaînes en clair a un effet direct sur le piratage. Sur le sport, c'est très spectaculaire. Sur les matchs du PSG, il y a un piratage qui est très fort. Donc il y a dans le texte de loi des dispositions particulières sur le sujet qui permettront d'avoir des interventions, par une intervention du juge, en s'inspirant un peu du modèle anglais d'ailleurs, pour lutter contre le piratage sportif.
En temps réel, du coup.
En temps quasi réel.
La loi arrive en débat, la nouvelle loi audiovisuelle. Vous avez été, on l'a dit, vous avez une grande expérience en ce domaine puisque vous avez participé à la fabrication de la loi audiovisuelle de 86, comme conseiller de François Léotard. L'expérience vous a-t-elle appris que rien n'était écrit d'avance? Est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une inflation d'articles et au fond de grands changements? Peut-être même le nom du CSA restera, qui sait, Hadopi, etc., lors des débats parlementaires.
Mon expérience, parce que j'ai suivi plusieurs débats sur le champ audiovisuel, c'est que vous savez dans quel état vous rentrez au Parlement, vous ne savez pas dans quel état vous en sortez.
Combien d'articles il peut
Je ne me souviens plus exactement pour la loi de 86, on avait dû rentrer avec une loi de 110 articles, c'est en tout cas le souvenir que j'en ai.
Petit marathon.
On est sorti au bout du compte avec probablement une loi aux alentours de 200, tellement il y avait eu d'amendements. Là, on part d'une loi qui est à 100, il va y avoir une avalanche d'amendements. D'abord, vous avez tous les acteurs du secteur qui sont dans les starting blocks. Donc, les acteurs du privé qui trouvent qu'on ne va pas assez loin et que donc il va falloir renforcer les dispositifs. Les auteurs qui sont plutôt bien servis dans le texte, mais enfin qui sont quand même très vigilants. Les producteurs qui, bien évidemment, vont être très attentifs au sujet. Et puis, la télévision, ça fait partie de ces sujets. C'est comme l'école sur lesquels chaque Français a un point de vue.
Ouais, c'est normal, puisqu'il paye la redevance.
Ah, et donc, chaque
pour le moment, il paye la redevance.
A lui aussi un point de vue là-dessus. Et je pense sur toutes les thématiques sociétales, la bonne alimentation, la suppression de la publicité.
Oui, il y a même un mouvement profond de fond des minorités, des communautés, des femmes, des handicapés, à être mieux représentés à la télévision et à la radio. Comment est-ce que vous comprenez ce mouvement et comment la loi et le CSA peuvent y répondre?
Il y a un très bon livre qui est sorti au début de cette année qui s'appelle L'archipel français, qui montre très bien cette évolution de la société française. Et nous, on le voit très bien dans les interventions du législateur. La loi de 86, vous savez, elle a été modifiée presque 80 fois depuis son adoption, par petits bouts, petites séquences. Beaucoup de ces interventions sont effectivement dans le champ sociétal. Que le CSA fasse plus pour telle catégorie, la visibilité des personnes en situation de handicap ou l'accessibilité pour elles, la place des femmes dans les médias audiovisuels, la bonne alimentation à laquelle je faisais allusion, les problèmes d'écologie qui vont certainement aussi rentrer. On va nous demander de regarder sur les programmes ces questions soient mieux prises en compte. Donc on a déjà des obligations qui nous sont posées par la loi. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap, il y a des critères d'obligation qui pèsent sur les chaînes en fonction de leur degré d'audience. Dans un tout autre registre, sur la place des femmes, puisque nous avons mission de veiller à l'égalité, nous publions tous les ans, en début d'année, un baromètre qui nous permet d'avoir un dialogue et de mettre en tension les chaînes pour leur dire « Regardez la situation dans laquelle on est, il faut que vous fassiez des efforts dans tel ou tel domaine. »
Emmanuel Paquette.
Alors, vous avez rendu un avis qui n'est pas public, mais il se trouve que Contexte et Électron Libre, de publication en ligne, ont diffusé certains éléments de votre préavis ou de...
C'est certainement pas la bonne version, vous verrez.
D'accord, ok, mais visiblement, il y avait des passages assez critiques. Alors, vous me direz si c'est le cas ou pas, notamment sur la coupure dont vous parliez précédemment, où c'est à couper un flux, par exemple, d'une plateforme qui retransmet de manière illégal en France sans avoir passé un conventionnement avec, avec le CSA. Vous aviez l'air, comme l'ARCEP d'ailleurs, le gendarme de télécom, plutôt critique sur la possibilité de couper ce signal. Autre petite critique, le fait que la radio, notamment la numérisation de la radio avec le DAB+, donc la radio numérique terrestre, et la diversité aussi culturelle sur les plateformes de streaming, et la possibilité de pousser les quotas aussi sur les plateformes de streaming du type Spotify, vous regrettiez que ça soit pas plus mis en avant dans la loi.
Il y a des obligations aujourd'hui avec cette nouvelle loi pour la télévision à produire et à exposer à des contenus européens, mais à la radio, les radios françaises ont une obligation de passer un quota de chansons en français, ce qu'évidemment Spotify n'a absolument pas du tout.
Et vous voudriez encore plus de missions, visiblement. Vous avez l'air très gourmand. Ouais.
Gourmand, le CSA ne revendique pas. C'est une fois encore le Parlement qui lui donne ses attributions. Plusieurs remarques. D'abord, l'avis aura vocation à être rendu public. C'est un avis qui est rendu au gouvernement et donc c'est le gouvernement qui le rendra public. Je ne sais pas exactement à quel moment. Je m'en suis entretenu avec le ministre il y a deux jours. Le Conseil d'État est en train de travailler, notamment à partir de notre avis. Donc le texte est en phase d'ajustement. Je pense dès qu'il sera stabilisé, l'avis sera rendu public. C'est un avis très, très dense, comme vous verrez. La tonalité globale est de se réjouir de ce projet de loi. Vous savez, tous les acteurs qui s'intéressent à ce sujet souhaitaient qu'il y ait un texte de loi qui intervienne. Nombreux rapports parlementaires, la Cour des comptes écrit pas mal de choses sur le sujet. L'autorité de la concurrence, elle aussi. Le CSA lui-même, à l'automne de 2018, avait produit une note stratégique avec une vingtaine de propositions. Donc notre tonalité est plutôt positive à l'appui de cet avis. Mais effectivement, ce qui est normal, le régulateur sectoriel a un regard très précis sur le secteur, donc on évoque une série de précisions. L'un des manques, c'est vrai, c'est la radio. Ce texte parle très peu de la radio, il parle un tout petit peu du DAB+, auquel nous attachons beaucoup d'importance. Donc le DAB+, pour les auditeurs, c'est la radio numérique terrestre, équivalent de ce qu'a été la TNT pour la télévision au début des années 2000. C'est un nouveau vecteur de diffusion avec une qualité de son meilleure, son numérique, et surtout un meilleur confort en mobilité, puisqu'on n'a plus à changer les fréquences. Donc quand on roule sur l'autoroute, ouais. Le signal suit de façon automatique. Il y a quelques éléments sur le DAB+, et nous venons à l'appui puisque nous déployons très activement ce dispositif cette année. En tout cas, on a franchi un pas majeur dans le courant de cette année. Donc on aborde cette question. Et effectivement, on aborde les plateformes de streaming en évoquant plusieurs pistes. La première, c'est qu'on souhaiterait que le régulateur puisse, en rejoignant ce que disait Aurélie Jean tout à l'heure, puisse avoir accès aux données agrégées, dans le respect du RGPD, bien évidemment, pour pouvoir dresser des constats objectifs de ce qu'est la consommation, de ce qu'est la diversité ou la non-diversité sur ces plateformes, pour pouvoir jouer notre rôle.
Ce qu'on peut le dire, c'est un enjeu pour les producteurs de musique en France aujourd'hui. À la fois, il y a un problème de répartition de la valeur et il y a un problème d'exposition. Si vous êtes un groupe de rock français qui marche plutôt bien, vous n'avez quasiment aucune chance face à Beyoncé et d'autres.
Exactement.
Dire comme ça.
Deuxièmement, on évoque la possibilité d'avoir des outils, ce qu'on appelle nous des outils de droit souple, des engagements des volontaires, des recommandations. Parce que ces plateformes, comme vous le savez, diffusent des playlists qui, à leur manière, sont des petites radios, c'est des petits programmes radiophoniques. Et donc, s'assurer de la diversité sur ces playlists.
Est-ce que vous allez leur imposer des quotas? Parce que c'était, les radios privées se plaignent. Ou alors, est-ce que vous demandez l'assouplissement des quotas pour les radios privées?
Ça n'a pas de sens d'imposer des quotas sur des plateformes de streaming.
Alors, est-ce qu'inversement,
parce que la consommation, par définition, se fait à la demande. Et donc, vous écoutez sur ces plateformes ce que vous avez envie d'entendre.
Est-ce que, inversement, vous demandez un assouplissement de ces quotas pour les radios privées?
Comme vous savez, il y a une mission parlementaire qui vient de démarrer il y a 10 jours sur le sujet. Et donc j'ai été le premier à être auditionné. Je m'étais exprimé d'ailleurs d'emblée lorsque j'ai pris mes fonctions devant les commissions parlementaires. C'est un sujet que je connais bien. J'ai fait un rapport qui aboutit à la création du Centre National de la Musique qui va voir le jour au début de l'année prochaine. Je pense que notre dispositif de quotas a porté ses fruits, est efficace, mais il est très raffiné, très sophistiqué, très complexe à mettre en œuvre.
Trop complexe.
Donc il faut l'assouplir.
Donc je pense qu'il faut le simplifier. Il faut essayer de le simplifier. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est une évaluation de l'efficacité complète de ces dispositifs. Donc ce serait assez normal. Si vous faites le parallèle avec le champ audiovisuel, dans le champ audiovisuel, on rétablit les équilibres. On a allégé...
Ce n'est pas l'avis des groupes privés.
Certes. Mais... Certes. Vous les connaissez.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Pour la radio, il faudrait...
19h22 sur France Culture. Roch-Olivier Maistre est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et notre invité jusqu'à 19h30. Dernière partie de cette émission ce soir avec Sandrine Cassini du Monde, Emmanuel Paquet de l'Express et Zoé Sfès de France Culture. On a évoqué déjà de nombreuses questions. Peut-être chacun une question pour conclure, et notamment sur l'audiovisuel public, ainsi que des questions encore sur les contenus, le pluralisme électoral. Emmanuel Paquet, pour commencer.
Alors, je vous avais demandé si vous étiez plutôt Michel Boyon ou Olivier Schramek. Je vais vous demander si vous étiez plutôt François Hollande ou Emmanuel Macron, puisque dans le dernier livre de François Hollande, sur donc les leçons du pouvoir, l'ancien président disait que ça ne serait pas un progrès, ni pour l'indépendance, ni pour la performance de l'audiovisuel, de créer une holding qui chapeauterait un peu donc Radio France, France Télévisions. Emmanuel Macron, visiblement, un avis inverse. Donc, dans quel camp vous vous situez, vous, aujourd'hui?
Écoutez, moi, je pense que ça a du sens de vouloir organiser une coopération renforcée.
La BBC à la française, chère à Franck Riester.
Une convergence renforcée entre les acteurs du service public, singulièrement dans le paysage qu'on a évoqué ce soir. Je parlais d'onde de choc. C'est une véritable onde de choc. Vous avez utilisé l'expression de tsunami. Je l'approuve. Pour les médias traditionnels, ce qui s'annonce va être redoutable. Alors la loi va permettre en partie d'y répondre. Les acteurs eux-mêmes sont dans une stratégie d'adaptation. Et donc, renforcer le service public en ayant des collaborations renforcées par cette holding, je trouve pour ma part que ça peut avoir du sens. La limite que je mets à cette affaire-là, c'est que le danger serait de créer une superstructure supplémentaire. Donc avoir une structure faîtière, pilotage stratégique, coordination des acteurs, oui. Reconstituer une couche de plus dans le millefeuille, ce que je serais tenté d'appeler la réforme à la française, ce qu'on a connu dans d'autres domaines. Je pense notamment aux réformes des collectivités locales. On a fait finalement ajouter des strates. Ça, ce serait pour le coup contre-productif.
Zoé Sfès.
Bon, on a évoqué tout à l'heure la taxe d'habitation, les débats passionnés qui ont lieu chez les Français quand on parle de l'audiovisuel public. La taxe d'habitation s'est terminée dans pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, nous fonctionnons encore sur un système de redevance. Et cette loi audiovisuelle, vous l'avez dit, elle tranche, elle fait des propositions dans maint domaine. Elle n'a absolument pas du tout réglé cette question.
Anticiper
cette fin question. De la contribution. Est-ce que vous, concrètement, en tant que président du CSA, ça vous inquiète?
Écoutez, vous verrez, on l'évoque explicitement dans notre avis.
Engager cette réforme sans penser son financement.
On évoque explicitement cet avis. L'indépendance du service public, c'est aussi son financement. C'est le mode de nomination de ses dirigeants. Et je pense que le dispositif qui est proposé, c'est des sujets qui ont déjà été jugés par le passé, par le Conseil constitutionnel. Le simple fait qu'il y ait un avis conforme du CSA pour le choix du président est de nature à préserver l'indépendance. Mais il y a un deuxième volet dans l'indépendance, c'est l'indépendance financière.
Qui est aussi un volet
que le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de relever dans des décisions par le passé. Je pense très important, effectivement, de donner un éclairage sur ce point. Et je suis, pour ma part, très attaché à un financement affecté au service public.
Directement au service public, sans passer par l'État.
Une budgétisation de l'audiovisuel public, ça se traduira nécessairement par des régulations annuelles. C'est comme ça que fonctionne le budget de l'État. Tous les ans, il y a des régulations qui s'opèrent. Donc ça ne donne pas de visibilité aux entreprises. Piloter ces entreprises, c'est des entreprises très importantes. France Télévisions, c'est presque 10 000 salariés. Ici, pratiquement 5 000. Un petit peu moins. Vous avez besoin de visibilité. Si vous ne savez pas ce qu'est votre trajectoire financière, vous
ne pouvez pas... BBC, par exemple, c'est budgétisé sur 8 ans.
Exactement. Et avec un plan d'économie, mais ce n'est pas le sujet de ce soir.
Donc c'est un volet, le fait que ces entreprises de l'audiovisuel public aient une trajectoire financière annoncée et qu'on sache vite, puisque maintenant on sait que la redevance est amené à s'arrêter fin 2022, début 2023. Alors le gouvernement y travaille, le gouvernement doit produire un rapport au Parlement très prochainement sur le sujet. Il y a pas 36 options, hein. Il y a une option, je l'ai dit, de budgétisation. Moi j'y suis très hostile pour les raisons que j'ai évoquées. L'autre option, c'est effectivement des mécanismes de recettes affectées. On a des exemples qui existent ailleurs. Les Allemands ont réformé leur dispositif avec une contribution universelle, avec des seuils d'exonération en fonction des revenus des personnes, bien évidemment. Je pense que c'est un dispositif qui est déconnecté des écrans, ce qui a du sens aujourd'hui, puisqu'on a accès au contenu par une multiplicité de vecteurs. Donc, pour ma part, comme régulateur, je ne peux être que favorable à cette option-là. Et une fois encore, je pense que c'est très important pour les entreprises du service public, c'est très important pour la création, ce sont des entreprises qui sont des acteurs majeurs du financement de la création en France.
Eh bien, on va en rester là pour ce soir. Merci infiniment d'être venu dans Soft Power et d'avoir répondu pendant presque 1h30 à nos questions et celles en particulier de Sandrine Cassini du Monde, Emmanuel Paquette de l'Express et Zoé Fès de France Culture. Merci à Aurélie Jean d'avoir été là au début de cette émission. Pour aller plus loin, les références des articles et des livres dont on a parlé durant cette émission, c'est sur le site de France Culture, émission Soft Power. Et on vient de publier d'ailleurs un article très détaillé sur le CSA, tout un débat qui explique comment vous fonctionnez et aussi les évolutions envisagées par la loi. C'est un article à lire sur le site de France Culture. Il est signé Nathan Marcel Millet. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes ou encore sur l'application podcast de votre smartphone. La semaine prochaine, dans Soft Power, nous consacrerons cette émission, notre émission à la cybersécurité. Et dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler, vous en avez parlé, Roch-Olivier Maistre, au cours de cette émission, que Jérôme Fourquet de l'IFOP sera l'invité des matins demain, donc de France Culture, à ne pas rater. Merci à tous, merci d'être venus ce soir en direct. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.